Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Écho en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux et CapScience, le centre de culture scientifique de Bordeaux que j'ai le plaisir de diriger. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Cohen. Patrick Cohen, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences Écho, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois. Alors, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Pour ce livre, évidemment, la crise Covid.
Et Raoult. Ou plus globalement, la crise Covid.
Et plus globalement, il faut remonter...
C'est Raoult ou la crise Covid ?
Ah, la crise Covid, la crise Covid. La crise Covid, Raoult est venu... parasite, si je puis dire.
Si je vous dis c'est comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
Je pense que c'est l'idée... la bêtise, dit quelqu'un devant. La bêtise, vaste sujet. Je pense que c'est l'idéologie anti-vaccinale. Elle est présente largement dans ce livre, mais on a vu à quel point dans l'histoire, et on voit à quel point encore aujourd'hui, elle fait des ravages et provoque des décès.
H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Alors, vous m'avez posé la question il y a quelques minutes, et j'ai envie de citer quelqu'un qui n'est pas connu, plutôt que de citer, répéter une célébrité que tout le monde connaît. J'ai envie de citer la personne, la mémoire de Jean Cavaillès, qui a été un philosophe et mathématicien dont on consulte encore aujourd'hui les livres, les ouvrages et l'œuvre, et qui a été en même temps un grand résistant, qui a été fusillé par les nazis au printemps 44. Il est tombé dans l'oubli aujourd'hui, et c'est dommage, c'est une figure très inspirante. Il n'est pas complètement tombé dans l'oubli parce qu'il vit à travers le personnage qui est interprété par Paul Meurice dans L'Armée des Ombres, Luc Jardy. Et c'est Jean Cavaillès qui a inspiré, non pas Joseph Kessel, l'auteur du livre L'Armée des Ombres, mais Jean-Pierre Melville, qui a mis dans les mains de Paul Meurice et de Lino Ventura, qui les manipule quand il est dans la maison dans laquelle il se réfugie pendant sa planque, qui a mis dans ses mains des livres de Jean Cavaillès. Ce sont les titres des livres de Jean Cavaillès qu'on voit dans l'Armée des Ombres.
Formidable. Et finalement, haut comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
Le fait que l'avenir n'est écrit nulle part.
Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait chinois, Patrick Cohen, vous êtes journaliste, chroniqueur notamment dans l'émission C'est à vous depuis 2011 et éditorialiste politique de la matinale de France Inter. Vous publiez votre premier ouvrage en solo aux éditions Flammarion. Son titre, Les Mystificateurs, et son sous-titre, À quand un vaccin contre les gourous de la science ? Alors, vous suivez et commentez l'actualité, depuis quelques années déjà. Vous avez interviewé des milliers de personnes, à peu près. J'ai calculé, je me suis dit, c'est forcément des milliers, de tous les horizons, de tous les sujets, des politiques, des artistes, des scientifiques, des acteurs économiques. Et pourtant, vous avez choisi pour votre premier livre de faire un travail sur les dérives de certains scientifiques qui se sont égarés, entraînés dans leurs errements, les médias, les politiques et le public. Et on verra, les conséquences de ces dérives sont nombreuses. Alors, on se souvient évidemment du professeur Raoult, on en a parlé, de son hydroxychloroquine miracle. Mais en fait, dans le bouquin, vous ne vous contentez pas de revenir sur ce cas-là, mais vous revenez sur des cas historiques des décennies passées. Alors, ce qui est passionnant, c'est de voir la mécanique d'emballement qui mêle science, médias et politique à peu près à chaque fois, qui prend toujours à peu près une forme qui se ressemble. Et on va, au travers des exemples qu'on va parcourir, on va essayer de déconstruire cette mécanique-là. Et on voit ce schéma qui se répète. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces affaires, moi, j'ai envie de vous demander pourquoi, alors que votre travail journalistique vous a fait étudier tous les sujets, pourquoi vous avez choisi celui-là, alors que vous auriez pu choisir mais n'importe quel autre sujet ?
Bon, c'est un peu le hasard, et puis c'est la volonté aussi de sortir des sentiers battus. Il se trouve que je travaille beaucoup, j'écris beaucoup, je suis assez exposé, le matin à la radio, le soir à la télévision, et donc c'est difficile de trouver aussi un sujet, matière à faire 200 pages, un peu plus, sur un sujet qu'on n'a pas forcément rebattu dans les, dans ses éditos, dans ses chroniques. Et là, c'est venu d'un projet documentaire. Au sortir de la crise Covid, on s'est demandé s'il n'y avait pas matière à faire quelque chose, à essayer d'éclairer la sidération dans laquelle la plupart des gens, des humains, sont tombés par rapport à ce qui nous est tombé dessus. Et l'idée est venue, non pas de revisiter la crise Covid, de raconter une dernière fois, encore une fois, la mystification Raoult, mais de voir justement ce qui, dans notre histoire, dans l'histoire des sciences en général, pouvait s'apparenter à ce qui était arrivé, c'est-à-dire un gourou, un savant, un type plutôt reconnu dans son domaine, en vienne à essayer d'entraîner les foules, à proférer des choses qui sont contestées par la plupart de ses pairs, et à créer des mystifications de ce genre. Et on retrouve, comme vous l'avez dit, effectivement, des points communs dans les histoires qu'on a racontées, où il y a à la fois des arguments d'autorité, des erreurs médiatiques, de l'intervention du politique, et au final, une science malmenée.
Alors, le premier que vous passez au tamis, c'est Claude Allègre. On l'a connu chercheur émérite. Vous rigolez pas. On l'a connu chercheur émérite, on l'a connu ministre. Mais alors là où sa notoriété a explosé, c'est quand il a pris des positions climato-sceptiques. Alors pouvez-vous nous expliquer ce mystère? Comment on passe de scientifique reconnu et médaillé à personnage médiatique qui a publié L'imposteur climatique?
Ben voilà, c'est ça, c'est le mystère de Claude Allègre qui, comme la plupart des autres dans ces histoires, est sorti de son domaine de compétences. C'est un géophysicien, c'est un spécialiste de la croûte terrestre et pas du tout du climat. Au moment où il publie son livre et où il s'engage dans la voie climato-sceptique, les sciences du climat sont encore en formation. S'il y avait un climatologue ici, il m'engueulerait, il me dirait que c'était déjà largement formé, mais c'est vrai qu'il y avait encore un déficit de légitimité, notoriété.
Mais il y avait un consensus par contre parfait.
Il y avait un consensus qui était quasiment parfait, qui était sur l'origine anthropique du réchauffement climatique. Je crois que le niveau de certitude du GIEC à ce moment-là était à 93%. Enfin, on avait dépassé les 90%, donc il y avait un consensus scientifique très large. Mais c'est justement l'intérêt d'un type qui a envie de se faire remarquer, c'est d'aller à l'encontre de ce que disent l'ensemble de ses pairs. Et quand on a une notoriété comme Allègre, quand on a été ministre, quand on a un réseau en même temps médiatique et qui vous permet d'accéder au plateau télé et au micro de radio, c'est très intéressant. Donc il publie, il avait déjà fait des chroniques climato-sceptiques dans le passé, mais L'imposture climatique qui paraît en 2010 est un succès librairie considérable, 100-150 000 exemplaires. Il écume tous les plateaux télé et il est absolument catégorique, méprisant à l'égard de ceux qui lui sont opposés, généralement des climatologues, parmi lesquels Jean Jouzel, futur prix Nobel, Valérie Masson-Delmotte, qui alors jeune climatologue inconnu, mais il les assomme avec, je le disais, des arguments d'autorité qu'on a retrouvés plus tard dans la crise Covid. Je suis un très grand scientifique, mes détracteurs ne m'arrivent pas à la cheville. Comment voulez-vous m'opposer des choses qui ne tiennent pas? Et donc il a formé beaucoup d'esprits et de manière, hélas, assez négative dans ces années-là en France, avec une campagne climato-sceptique. La question, c'était pourquoi la gloriole?
La gloriole,
La gloriole, c'est un moteur très... J'ai regretté après de pas l'avoir mis le mot gloriole que j'aime bien dans le livre. C'est une chanson de Jean-Yann, la gloriole, d'ailleurs. C'est amusant. Mais oui, la gloriole, c'est un moteur puissant pour beaucoup de gens qui ont envie d'être dans la lumière et qu'on parle d'eux.
Vous avez dit les médias, il a été reçu partout, c'est vrai. Vous listez là où il a été reçu, c'est impressionnant.
Oui.
Toute personne qui veut dire quelque chose en rêverait. Mais alors, du coup, c'est de la complaisance médiatique. pour le personnage? C'est quoi? C'est la recherche d'audience à tout prix? Qu'est-ce qui fait qu'on reçoit, alors que justement le consensus scientifique semble établi, on ne reçoit pas toutes les hurluberlus qui disent n'importe quoi?
Bah, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que le consensus scientifique, hélas. Et que le consensus scientifique, ça ne fait pas un spectacle médiatique. Si vous voulez faire du spectacle, vous mettez le consensus scientifique d'un côté et une opinion marginale ou hétérodoxe de l'autre. Et là, vous avez du combat, de la controverse, du fight. Et voilà. Et avant même les réseaux sociaux et avant même la toute-puissance des chaînes info d'aujourd'hui, les émissions dont je parle en 2010, qui sont hélas le plus souvent des émissions du service public de la télévision, elles font ce que font aujourd'hui les chaînes info, c'est-à-dire mettre des gens face à face pour se disputer. Mais si vous dites le consensus scientifique est d'accord pour dire que l'homme et les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique est absolument incontestable. Bon, écoutez, ça c'est intéressant, mais si vous avez
oui, mais le combat est asymétrique.
Si vous créez le débat de cette façon-là, vous faites du spectacle.
Sauf que Claude Allègre est un sacré rhéteur.
Exactement.
Il a des punchlines en titane béton et le combat est asymétrique.
Exactement.
Parce que les chercheurs étaient. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde scientifique, la réaction du monde scientifique était timorée. Alors, je me suis demandé si c'était du manque de savoir-faire,
oui.
Du manque de conviction ou du mépris pour l'arène médiatique et.
Il y a un peu de tout ça. Je disais tout à l'heure, ça semblait vous faire frémir que la science climatique était une science jeune. Oui, oui, quand même, elle était et elle n'avait pas encore de figure reconnue comme ça a été ensuite le cas pendant les années suivantes. Et par ailleurs, c'est le même phénomène qui s'est produit au moment du Covid. A eu à peu près la même chose et on a eu effectivement des alors Raoul c'est particulier parce qu'il voulait pas débattre avec il ne voulait débattre qu'avec lui-même ou avec des journalistes dont il n'admettait pas toutes les questions, donc c'est particulier, mais en tout cas on a eu effectivement des fausses controverses pendant la crise Covid sur les plateaux de chaîne info avec des gens qui faisaient croire que les scientifiques étaient divisés, ce qui, je crois, n'est pas vrai. Les scientifiques étaient d'accord à 95% sur la plupart des données de l'épidémie et du virus. Ils étaient parfois en désaccord sur les décisions politiques qui étaient à prendre, qui étaient c'est deux choses différentes. Confinement, pas confinement, risque de reprise épidémique, deuxième, troisième vague, etc. Mais sur le fond scientifique de la crise Covid, les scientifiques étaient d'accord. Et c'est pas vrai qu'il y a eu bataille et désaccord et division des scientifiques à ce moment-là.
Claude Allègre, dans le chapitre que vous lui consacrez, il y a un moment donné, il dit un truc, moi ça m'a fait réfléchir, parce que en tant que directeur d'un centre de science, je suis confronté à ça tout le temps, enfin les équipes surtout, mais il a dit « je revendique le droit au doute ».
Oui.
Je me suis dit « mais je ne l'avais pas vu avant ». Je me suis dit « du coup, est-ce qu'il n'a pas inventé un truc, alors qu'il n'est pas du tout spécialiste du sujet du climat, en revendiquant ce droit au doute, est-ce qu'il n'est pas à l'origine de la possibilité pour n'importe qui de douter des résultats de spécialistes qui ont confronté leurs résultats à d'autres spécialistes qui, eux, ont le droit de se douter entre, enfin, droit de douter les uns des autres en étant spécialiste des sujets, alors que lui n'a pas de raison de douter. Je sais pas si je me fais comprendre là. Il y a beaucoup de doutes. Voilà. Mais en gros, est-ce que quelqu'un qui n'est pas spécialiste d'un sujet a le droit de douter d'un sujet scientifique sur lequel il ne connaît rien? Et lui dit, je revendique le droit au doute.
Oui, mais on peut douter. D'abord, on peut douter pas de tout. Il y a quand même un corpus scientifique solide sur lequel il n'y a plus de doute possible. Enfin, si la Terre est ronde, oui, c'est vrai, la Terre est ronde, la gravité nous entraîne vers son centre. Enfin, il y a des données absolument établies sur lesquelles on a, je pense, il n'y a pas de légitimité à avoir des doutes. Et par ailleurs, douter de la science ou d'un consensus scientifique ou de données qui sont établies nécessite qu'on y apporte des arguments scientifiques et pas simplement cette espèce de
droit au doute.
Oui, de droit au doute, de comment dire, de. Je, manque le terme de distance critique à l'égard d'un corpus. Enfin, il ne suffit pas de se poser simplement en sceptique sur les choses qu'on vous explique et qu'on vous assène. Il faut y apporter des éléments scientifiques solides qui permettent de relancer, de rouvrir éventuellement un débat. Et c'est différent évidemment de la recherche, où la recherche, on explore des champs qui n'ont pas encore été complètement établis et avec certitude par la communauté scientifique.
Alors, dernière question sur Claude Allègre, et je vous la poserai sur toutes les aventures qu'on va voir, c'est quel est l'héritage qu'il a laissé, à part dans Chez mes oncles et tantes, quel est l'héritage de Claude Allègre, justement de cette mystification collective?
Peut-être ce que dit Jean Jouzel, ce que nous a dit Jean Jouzel pour le livre, peut-être quelques années de retard dans la prise de conscience des pouvoirs publics de l'urgence climatique. Voilà, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal, mais oui. En fait, à chaque fois, quand on regarde les héritages, en fait, il y a des beaux héritages quand même des mystificateurs. Alors, on passe maintenant à une autre affaire qui mêle encore scientifiques, politiques, médias et qui ressemble dans ses modalités encore plus, pour moi, à ce qui s'est passé pendant le Covid, la cyclosporine.
Ah oui, mais en beaucoup plus bref.
En beaucoup plus bref, mais alors c'est un condensé d'exactement la même chose.
15 jours.
15 jours, mais balèze. C'est quoi l'affaire de la cyclosporine? Je pense qu'il y en a pas mal. Moi, j'en ai.
Alors, cyclosporine,
oui, je la connais, mais. Oui.
Cyclosporine, on arrive à un moment où le sida se découvre au monde et vient perturber une communauté scientifique prise de court par un mal mystérieux qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à identifier, qu'on ne sait absolument pas soigner, et avec des gens qui meurent dans les services. Qui sont immunodéficients et qui meurent très vite. On ne sait pas quoi faire. Et il y a vraiment un grand désarroi de la communauté scientifique et de tous ceux qui sont face à ce mal inconnu. 85. Et donc il y a l'idée de se saisir aussi de molécules, de remèdes existants qui peuvent éventuellement soigner. Donc l'idée de la cyclosporine, je suis pas médecin et je vous l'expliquerai très mal, mais c'est un produit qui limite les rejets en cas de greffe.
Et c'était une hypothèse qui n'était pas débile en soi.
Qui n'était pas débile, c'est l'idée de soigner le mal par le mal en quelque sorte. Hein. Un peu de ça, non?
Ouais.
Le sida qui provoque une immunodépression des malades, et la cyclosporine est un immunodépresseur,
ouais,
c'est ça.
Ouais. Mais en fait, c'était même une hypothèse sur laquelle travaillait Pasteur en même temps.
Exactement.
Mais pourquoi, du coup, c'est devenu une mystification scientifique?
Alors, c'est devenu
la mécanique
qui c'est devenu une mystification parce que dans l'urgence de traiter, de trouver un traitement. Certaines équipes, effectivement, c'est le cas de Pasteur, avaient l'idée de la cyclosporine, mais une équipe de Necker, qui avait des malades dans un service voisin, donc avec Philippe Évin, pneumologue réputé d'ailleurs, et puis deux autres collègues, a eu l'idée tout de suite, en s'asseyant sur tous les protocoles scientifiques, de l'administrer à des malades qui étaient dans le service voisin. Et en plus de le faire savoir à l'autorité politique qui a autorisé ces expériences, enfin il est probable, on n'a pas la certitude que l'autorité politique a délivré le bon de sortie pour utiliser ce produit qui était assez cher et rare, cyclosporine, et de communiquer dessus, alors sur la base de résultats très partiels de malades dont les lymphocytes T4, parce que c'est ça qu'on surveillait à l'époque, c'était le seul thermomètre possible pour vérifier l'évolution des malades du sida, c'est-à-dire leur taux de lymphocytes T4, sur la base d'une amélioration très, très fugace. L'autorité politique a non seulement autorisé l'expérience, mais a communiqué. Et donc, il y a eu très vite, alors que on venait à peine de donner le remède à plusieurs malades qui étaient déjà mourants et dont on a appris plus tard que au moins un était mort avant même
la conférence de presse.
Donc, il y a eu une grande conférence de presse dans l'amphi de Necker. Un après-midi, précédé par un télégramme, par une dépêche, un communiqué du ministère de la Santé, qui était dirigé par par Georgina Dufoy. Et donc, on a cet objet absolument inédit et stupéfiant pour toute la communauté scientifique d'une découverte, une pseudo-découverte annoncée par une autorité politique. Voilà. Mais dans le contexte du désarroi scientifique et du désarroi public à l'égard du sida, il y avait 14 équipes de télévision étrangères représentées à Necker pour filmer la conférence de presse. Enfin, c'était un événement tout d'un coup mondial considérable.
Dans cet exemple, ce qui est super intéressant, c'est que l'urgence incite le politique à vouloir donner des bonnes nouvelles sur la base de n'importe quoi, qui fait caisse de résonance, et du coup on se retrouve avec des équipes internationales qui viennent. Après, on découvre que les patients meurent, mais les scientifiques restent dans l'erreur. À quel moment on bascule dans la mauvaise foi ? C'est-à-dire à quel moment les scientifiques se rendent bien compte que les patients à qui ils ont administré ça sont morts et que du coup, ce n'est pas une bonne idée. Et pourtant, et ça fait écho avec ce qu'on a vu pendant le Covid, on maintient une position qui devient une position qui, pour moi, au départ, le scientifique, il a le droit de faire des hypothèses, il a le droit d'essayer des trucs. Quand ça ne marche pas, par contre, il faut reconnaître que ça ne marche pas et on fait autre chose. Et là, on maintient la chose.
Ils n'ont jamais vraiment reconnu que ça ne marchait pas. Et je vais même vous dire, je le dis, alors c'est un peu noyé, c'est dans une note bas de page, là, pour le livre, pour le doc et pour le livre, j'ai rencontré Philippe Évin, donc il y a deux ans et demi. Il a 93 ans, c'est un vieux monsieur, il ne voit plus, etc. Mais il a toute sa tête et le souvenir très vif de cette époque-là. Il pense toujours que la cyclosporine est utile pour traiter du sida. Donc...
On peut même pas le taxer de mauvaise foi.
Non.
D'accord. Et du coup, quel est l'héritage, si ça en a un, la cyclosporine ?
Alors l'héritage, c'est un héritage très intéressant, ce sont les lois de protection de la personne humaine pour les expériences scientifiques, puisqu'il n'y en avait pas. Enfin, il y avait une législation qui était, je crois, très, très limitée et très balbutiante. Et donc, il y a eu la loi, c'est dans quel ordre ? La loi Hurier, puis la loi Jardet, c'est ça, hein ? Hurier d'abord et Jardet ensuite, qui... loi Jardet toujours en vigueur, évidemment, qui protège, qui crée des comités de protection de CPP, comité de protection de la personne. Donc, enfin, bref, ça dit en gros qu'une équipe médicale qui veut tester, faire une expérience scientifique et administrer un remède sur un malade doit le faire avec le consentement, avec sous surveillance,
ça n'existait pas,
avec un comité, etc. Et ça, c'est vraiment le résultat de la cyclosporine, c'est-à-dire que les premières lois en France protègent ce qu'on appelle vulgairement les cobayes, mais des gens qui peuvent être amenés à tester des remèdes inédits. Et d'ailleurs, l'un des reproches, c'est aussi intéressant, l'un des reproches parmi beaucoup d'autres qu'on a fait à Didier Raoult, c'est de s'être assis sur la loi Jardet et d'avoir administré et fait ses expériences, ses études à l'hydroxychloroquine sur des malades à qui il n'avait rien dit.
Alors, il y a un autre héritage que moi j'ai qualifié d'héritage, mais il paraît que ça a déclenché aussi l'usage compassionnel d'un remède non vérifié.
Oui.
J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire quoi ? Ça marche pas, mais on vous le donne quand même ?
Exactement. On ne sait pas si ça marche, mais on vous le donne quand même. Et ça a été revendiqué ouvertement par Olivier Véran pour l'hydroxychloroquine. Avant que tout soit stoppé, j'ai pas exactement le calendrier en tête, mais en tout cas, il y a eu la tolérance. Il y a eu l'idée que on pouvait les médecins étaient libres de prescrire et d'administrer de l'hydroxychloroquine. Dans la communication du ministère de la Santé à l'époque, il y avait clairement c'était un usage compassionnel. Ouais.
D'accord. On va pas avoir le temps de faire toutes les histoires, et c'est très bien parce que ça veut dire qu'il en restera. Je vais sauter la mémoire de l'eau, mais il y en a un qui m'intéresse, une histoire qui m'intéresse, c'est celle de Trofim Lysenko.
Et oui.
Parce que elle, c'est l'inverse, c'est le politique qui drive l'erreur scientifique. J'ai l'impression que c'est le politique qui pousse à l'erreur scientifique et qui s'y enferme. Alors, on ne doit pas être beaucoup à connaître Trofim Lysenko.
Non, mais je remarque votre intérêt m'intéresse, si je puis dire, parce que je remarque que c'est une histoire qui fascine les scientifiques, que beaucoup de scientifiques connaissent. Contrairement au grand public, qu'il a évidemment oublié parce que ça n'a pas de prise sur le.
Et puis ça n'a pas eu d'impact sur nos vies à nous occidentaux.
Ça n'a pas eu d'impact sur le vie. Ça a eu, ça a connu un débat très intéressant que je rapporte en France, mais qui remonte à... dont plus personne ne peut se souvenir, qui remonte à la fin des années 40 et au début des années 50 avec...
Si vous aimez Louis Aragon, on en parle dans le...
Voilà, avec le Parti communiste, puisque le Parti communiste a adhéré officiellement à ce qui était devenu la science officielle de l'Union soviétique sous Staline, et c'est qui était une science sans génétique, enfin en tout cas qui...
On est dans le domaine de l'agriculture, là. On est sur pour augmenter les rendements et l'agrobiologie.
Oui, ça va au-delà de l'agriculture, puisque l'idée que du caractère acquis l'idée de l'hérédité des caractères acquis, c'est quelque chose qui était censé s'appliquer aux humains. Hein. Vous modifiez une plante, bon... Vous la modifiez, ensuite c'est, il me manque les termes, hein, ses descendants,
en tout cas, c'est transmis.
Ensuite, de la même façon pour les humains, l'idée c'est la Michurine. Hein, oui. L'idée, vous prenez un coup de poing dans la figure et vous avez le nez écrasé, vos enfants peuvent avoir les nez écrasés parce que vous voyez, c'est cette idée-là qui est complètement folle, évidemment, qui nie toutes les lois de Darwin à Mendel,
qui était une idée de Trofimenko, qui était même pas un grand scientifique.
Non, c'est l'idée de Michurine. Ouais. On a ensuite pris Michurine. Bon, voilà, mais en tout cas, pendant 30 ans, 40 ans pratiquement en Union soviétique, la génétique était qualifiée de science bourgeoise. Donc ça n'existait pas, et donc on en rigole, mais d'une part ça a provoqué des millions de morts parce que ça a aggravé les famines, parce que là évidemment ça c'était une belle théorie mais que ça ne marchait pas, donc Lysenko qui a promis de multiplier les rendements de blé par 3 ou par 4, en l'occurrence tout ça s'effondrait, et puis surtout les scientifiques les généticiens notamment ont été pourchassés, pour certains envoyés au goulag, tués.
Et ça, c'est l'héritage, en fait. C'est-à-dire que l'héritage de cet errement, c'est que l'URSS n'a eu beaucoup de mal à avoir une des scientifiques compétents dans le monde du vivant.
J'ai eu peur quand vous avez dit c'est l'héritage, non. Parce que ça n'a pas été reproduit par ailleurs, et Raoult n'a pas réussi à envoyer ses ennemis au goulag. Mais mais oui, en tout cas, il y a eu des conséquences invraisemblables, effectivement, pour tous ces scientifiques qui s'opposaient à cette idée-là, qui ont été pourchassés et combattus sans relâche. Et en France, des grands esprits qui soit ont démissionné du Parti communiste, comme Monod et Wolf et les futurs prix Nobel et d'autres, soit ont été exclus, comme Marcel Prenant, qui est allé à Moscou, qui a assisté à une conférence de Lysenko, qui est revenu absolument accablé par la nullité scientifique de ce qu'il avait entendu, qui est revenu, qui l'a dit à ses camarades de parti, et on l'a marginalisé, et on a fini par l'exclure. Non, c'est une histoire assez édifiante.
Alors, un autre voyage en saute, mais un autre voyage chez les gourous scientifiques. Alors, celui-là, on en a plus entendu parler, mais c'est bien de le remettre vraiment dans sa linéarité historique, c'est le lien entre le vaccin et l'autisme. Dont tout le monde a entendu parler, puisqu'on est devenus tous experts en vaccins assez récemment. Alors, cette affaire, en plus, elle est spécialement sordide, parce qu'elle ajoute au triptyque scientifique, média, politique, elle ajoute une composante d'intérêt financier.
Bien sûr.
Alors ça, autant j'avais été très intéressé par l'histoire des vaccins, autant je n'avais pas vu ça. Alors, je n'ai pas besoin de vous demander ensuite quel est l'héritage de cette affaire, mais par contre, ça vaut le coup d'en discuter sur la question d'antivaxisme. Mais alors, d'où vient cette idée reçue que le vaccin favorise l'autisme, si on fait l'histoire de Wakefield?
C'est venu d'un chirurgien gastrique qui s'appelle Andrew Wakefield, effectivement, qui n'était pas une sommité médicale à ce moment-là, qui était un chirurgien parmi d'autres, qui avait fait quelques publications scientifiques dans un hôpital de second ordre à Londres, et qui en 98 sort de façon spectaculaire lors d'une conférence de presse avec une étude assez faible et qui va vite être contestée.
Qui avait été publiée quand même.
Qui a été publiée, absolument, qui a été publiée par...
Le Lancet, non.
Par le Lancet, oui. Et qui a eu, hélas, voilà, c'est le mal vient de là. Elle a été publiée, évidemment, par l'une des plus prestigieuses revues scientifiques, et le Lancet a mis des années avant de la dépublier et de la rétracter. Et le mal a été fait. Il faut voir, nous, on est resté très, très étrangers à cette histoire. Dans le monde anglo-saxon, et en Grande-Bretagne en particulier, c'est une polémique considérable qui a occupé 10 ans de vie publique, de débats en tout genre, y compris de débats politiques, puisque Tony Blair, alors Premier ministre, a été pris dans cette tourmente-là parce que la presse, les tabloïds britanniques l'ont pas lâché pendant un an pour savoir si son jeune fils, Léo, avait été vacciné ou pas contre le vaccin ROR, rougeole, rayon, rubéole. Il a fini par dire que si, il était vacciné, mais c'était le Léo Gate a occupé une année entière du débat public en Grande-Bretagne. Et donc Wakefield rend public cette étude en 98 et provoque une onde de choc évidemment considérable parce que, alors évidemment, quand on connaît maintenant l'histoire et elle a été. Il y a beaucoup de journalistes qui jouent des rôles néfastes dans ces histoires, et on a parlé du rôle des médias tout à l'heure, mais là, il faut dire qu'il y a quand même un journaliste du Sunday Times qui s'appelle Brian Deer qui a fait un travail considérable d'enquête et qui a réussi à prouver, d'une part, que cette étude était trafiquée, absolument bidonnée, et deuxièmement, qu'il y avait surtout un lien d'intérêt un intérêt affairiste de la part de Wakefield, c'est-à-dire que pendant qu'il préparait son étude montrant la pseudo-nocivité du vaccin ROR pour les jeunes enfants, il créait une société et avait des intérêts dans une société qui s'apprêtait à commercialiser des single jabs, c'est-à-dire des doses uniques, puisque sa théorie, c'était que c'était pas le vaccin contre la rougeole lui-même qui provoque l'autisme, mais la combinaison des trois ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Bon. Et le taux de vaccination très vite a baissé, une polémique considérable est née.
Mais en fait, sur cette idée-là, il a lancé ce truc-là. Vous dites que dans le monde anglo-saxon, c'est un énorme impact. On le voit, Kennedy Junior, le ministre actuel, s'en revendique clairement.
Oui, c'est-à-dire, après 10 ans de polémique, il a fini par, lors d'un grand procès organisé par l'équivalent de l'Ordre des médecins britanniques, il a été radié. Il s'est exilé aux États-Unis, où il a trouvé de nouveaux adeptes, c'est-à-dire Kennedy Junior et Trump.
Avec des adeptes comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
Voilà, et Trump, je le mets en exergue du chapitre. Trump a cité explicitement ce mensonge dans le débat des primaires républicaines de 2015, dans l'un des débats, donc avant sa première élection, devant des dizaines de millions d'Américains. Il a dit il y a quelque chose à faire, il faut vous rendez compte, on injecte des doses de vaccin dans des tout jeunes bébés, dans des pauvres petits bébés, et après ils attrapent l'autisme, c'est affreux. Alors il faut dire aussi que le terreau était particulièrement bien choisi, je mets des guillemets pour ça, etc., c'est-à-dire l'autisme. Et le terreau, c'est celui du désespoir des parents autistes qui cherchent encore, même si on a progressé sur la compréhension des troubles autistiques, mais qui cherchent à comprendre pourquoi leur enfant est atteint de ce mal. Et le phénomène des mères d'enfants autistes a considérablement fait progresser cette théorie en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, dans chaque pays où cette théorie a été propagée, on trouve des célébrités qui, par désespoir, qui se raccrochent à cette explication simple. Aux États-Unis, par exemple, aussi incroyable que ça puisse paraître quand on voit son engagement anti-Trump d'aujourd'hui, Robert De Niro a participé à une conférence de presse commune avec Douglas, avec Robert Kennedy Jr. un moment parce que De Niro est le père d'un enfant autiste. Bon, je pense qu'il en est revenu aujourd'hui.
Et alors, du coup, globalement, sur l'ensemble de ces cas qu'on a rapidement parcourus, qui sont formidablement bien décrits et décomposés dans le bouquin, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, on a des démentis scientifiques carrés, à peu près propres, hein, sur Wakefield et le vaccin? On a 3 études statistiques qui montrent que non, pas de corrélation. Il y a tout un chapitre sur la mémoire de l'eau qui est très drôle, dans lequel on dit ben non, ça n'existe pas en fait cette histoire-là. Mais c'est lié à l'homéopathie, et en France, on vient juste de dérembourser l'homéopathie alors que les études le montrent depuis des plombes. Comment ça se fait que ça ne s'impose pas? Comment ça se fait que quelle est la mécanique qui fait que malgré tout, on a des rémanences très longues de ces mystificateurs scientifiques?
Ben, d'abord, on a envie de croire aux bonnes nouvelles. alors, c'est moi. Bon, c'est pas toutes des bonnes nouvelles, mais on a envie. Dans le cas de Wakefield, ce sont des explications simples et qui permettent la science. Là, pour le coup, n'avait pas d'explication simple à opposer au phénomène des troubles autistiques. On est d'accord là-dessus.
Ah oui. Bon. Mais est-ce que du coup, c'est la guerre des récits? Un récit simple gagne toujours face à un récit complexe scientifique qui est un peu plus
balèze. Oui, c'est l'une des explications. Il y a aussi évidemment le charisme, la puissance de rhétorique de certaines grandes gueules, comme on dit. On a parlé d'Allègre tout à l'heure. Enfin, il y a quelque chose aussi qui tient à de l'adhésion, la croyance populaire. Et puis surtout, je pense que cette idée de consensus scientifique, elle est mal forgée dans l'opinion, elle est mal formée, elle n'est pas toujours très claire. Et quand je parlais tout à l'heure des débats médiatiques qui opposaient de façon assez simplement, assez facile, l'opinion marginale ou hétérodoxe au consensus scientifique, je pense qu'il y a l'idée quand même que les choses ne sont pas claires. Le consensus scientifique, il n'apparaît pas dans sa clarté à l'opinion. Sinon, on n'aurait pas tous ces phénomènes du seul contre tous. C'est un peu l'objet du livre, le seul contre tous. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que il y a quelques exceptions parfois, mais globalement, dans la science d'aujourd'hui, dans la façon dont se forment les découvertes scientifiques, le seul contre tous, ça n'existe plus. On n'est plus au temps de Galilée, de Copernic, etc., de Newton, du type qui a une idée géniale et qui renverse l'ensemble des, non pas des croyances, car la science n'est pas une croyance, encore une fois, mais l'ensemble des connaissances scientifiques de l'époque. Ça n'existe quasiment plus. Dans ce monde hyper connecté qui est le nôtre, où les scientifiques partagent en temps réel leurs études, leurs expériences, leurs avancées, leurs savoirs, où chaque scientifique, et c'est le fonctionnement de la science qui est comme ça aussi, la science avance par regard croisé des scientifiques sur les travaux de leurs collègues. C'est le fonctionnement aussi des revues scientifiques, puisque les études sont publiées après revue des pairs, après un comité scientifique qui regarde la qualité des études. Alors, il y a des failles, on vient de citer The Lancet.
Oui, souvent, en fait, on le voit aussi dans le livre, en fait, souvent quand une revue scientifique, qui est l'espèce de concrétisation du dialogue des pairs, fait une boulette, c'est un formidable tremplin du mystificateur. C'est comme s'il avait réussi à hacker le système. La caution Science, Nature, Lancet et les autres grandes revues, elles ont un rôle de vigie hyper importante.
Et voilà. pour le Covid, le Lancet s'est planté à nouveau. Ouais. Et évidemment, les partisans de...
C'est le même relecteur que les cyclosporines.
Peut-être. les partisans de l'hydroxychloroquine s'en sont délectés, évidemment, pour dire que les critiques étaient non fondées. Mais donc... Si, parce que cette question m'est souvent posée, donc je la devance. C'est à qui faire confiance?
Ah non, je l'ai
pas. Il n'y a pas de réponse, hein, c'est comme ça. Mais simplement, si au moins l'idée de se méfier en matière de science et de discours scientifique du seul contre tous, je pense que c'est. Est-ce que vous pourriez convenir de ça? Que c'est une bonne règle?
Je suis entièrement convaincu. Alors. En plus, là, tout semble la question de savoir qu'est-ce qui est vrai et justement à qui se fier c'est de plus en plus compliqué quand on a les réseaux sociaux qui s'en mêlent et qui amplifient algorithmiquement ou parce que c'est mieux fait, la question du fait et du rapport au fait. Quand on voit face aux mystificateurs scientifiques ou politiques, mais plutôt scientifiques dans le cadre de notre conférence, mais l'apport de la preuve factuelle semble inopérant dans la majorité des cas. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'échec du fact-checking, du debunking, du journalisme face à la vitesse de propagation? Je sais, nous, la science, on a un compte qui s'appelle Curieux, on a 3 millions d'abonnés, on passe notre temps à essayer de défendre des idées, on est moins efficace que toutes les idées farfelues qui peuvent être en face.
Oui, mais c'est pas parce que ça marche pas à tous les coups qu'il faut pas le faire.
Ça, on est bien d'accord.
Donc, je pense
On est quand même assez démunis face à la vitesse de propagation du grand n'importe quoi.
Il faut... Oui. Mais ça, j'ai pas de réponse là-dessus. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Mais il faut continuer de le faire. Il faut continuer d'apporter les bases rationnelles et scientifiques à des débats qui tournent n'importe quoi. Oui.
Et alors, si on veut vacciner la population contre les mystificateurs, de tout poil, est-ce que c'est pas une question aussi d'enseignement? Est-ce que c'est pas justement est-ce qu'on doit faire quelque chose au niveau de l'éducation, de la culture scientifique et tout, pour faire en sorte que les gens soient plus capables de pas se laisser démystifier?
Absolument. Et là encore, je renvoie à ce qui s'est passé lors de la crise Covid, où moi j'ai été. Alors, je parle pas du grand public qui, après tout, n'avait pas forcément vocation à s'intéresser à ces choses-là avant. Mais c'est vrai que j'ai été fasciné par, de la part de médiateurs, donc de journalistes, d'animateurs d'émissions, etc., de la méconnaissance du mécanisme épidémique. Il y a eu des débats sur la deuxième vague. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la rentrée 2020, quand tout d'un coup l'épidémie repart et on est menacé de se confiner à nouveau, donc ça provoque beaucoup de débats. Et le débat, c'était à qui la faute? Mais une épidémie, ce sont des contacts entre humains, quoi. Donc, quand il y a des contacts, l'épidémie repart. Et puis pour casser l'épidémie, on a produit des confinements parce qu'il n'y avait pas d'autre urgence à faire. Mais vous vous souvenez de ces débats sur les chaînes de télé? Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Est-ce que c'est la faute des gens? Est-ce que c'est la faute du destin? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus à nous particulièrement? Alors que on pouvait considérer que c'est simplement une équation mathématique. C'est la densité des gens en rapport à la distance qu'ils ont les uns par rapport aux autres et leur capacité de se protéger. Enfin, c'est des choses qui... Et la contagiosité du virus, évidemment, mais c'est, voilà. Et donc, après 6 mois de crise, il y avait encore sur un certain nombre de plateaux télé un certain nombre de gens qui ne comprenaient pas quelle était simplement la mécanique de l'épidémie.
En fait, c'est l'inverse de ce que vous venez de dire, puisqu'en fait, on a été éduqués pendant 6 mois avant sur la mécanique épidémique, et quand ça repart, on a oublié. On se laisse reprendre.
Est-ce qu'on a été bien éduqué sur la mécanique épidémique?
En tout cas, on en a mangé.
Oui, mais sur la mécanique. Encore une fois, pardon, hein, mais il y avait des... j'ai eu l'impression quand même qu'à certaines périodes, on discutait davantage de... la bureaucratie liée au confinement, des papiers, des autorisations, des trucs, etc., qui étaient effectivement complètement excessives et qui étaient un débat purement, politique et bureaucratique, que des logiques mises en œuvre. Je pense qu'on est passé à côté d'un certain nombre de pédagogie à faire sur ce type
d'événement. À titre personnel, je peux en témoigner au nom des équipes de culture scientifique et de l'ensemble des centres de culture scientifique, on n'a jamais été sollicité pendant toute la période, non, par les pouvoirs publics. que ce soit la Villette ou Palais de la Découverte ou les autres, à aucun moment les pouvoirs publics se sont dit, tiens, on a des médiateurs scientifiques à qui ça pourrait être pas mal de les mobiliser. Alors, on l'a fait de notre plein gré, mais à aucun moment on est venu nous dire, mais les médias non plus. Sur la question de la pédago, sur la médiation, sur la question épidémique. Ça nous a beaucoup choqué à posteriori en se disant, mais en fait, à quel moment, c'était le moment où on aurait dû être sollicité, mais on ne l'a pas été. Alors, on arrive bientôt au terme de cet échange. Alors, avant de passer aux questions de la salle, une dernière question. Faut-il aller jusqu'à la création d'un délit de charlatanisme scientifique? Est-ce que c'est judiciarisable?
Non, mais en revanche, il imaginer une réactivité plus grande face à des gens qui occupent des positions de pouvoir au sein de d'organismes scientifiques ou d'instituts de virologie, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a eu quand même un laisser-aller très 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 grand et très long. Et par ailleurs, je me suis pas penché sur ces histoires-là, mais en tout cas, il y a des gourous qui sont poursuivis et qui sont en tout cas qui sont combattus sur le plan judiciaire, il me semble. Hein.
Quelques-uns.
Ça existe.
Alors, Patrick Cohen, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous vos réflexions.